Un accord à minima trouvé pour les prisons françaises. L'UFAP-UNSA annonce cet après-midi valider la proposition du ministère de la Justice, ce qui pour l'instant ne fait pas changer d'avis. FO et la CGT, la chancellerie, dit quoi qu'il en soit vouloir appliquer le plus rapidement possible ce texte, dont Anne Fauquemberg nous donnera les détails dans un instant. Le procès de Jawad Ben Daoud se poursuit, chaotique devant le tribunal correctionnel de Paris. Une heure seulement après la reprise des débats cet après-midi, une suspension d'audience est venue souligner une nouvelle fois le caractère irascible du prévenu, compte rendu de Florence Turm. À Davos, c'est un Donald Trump presque conciliant qui s'est exprimé tout à l'heure. Devant les dirigeants politiques et économiques du monde entier, le président des États-Unis a voulu rassurer. L'Amérique d'abord ne veut pas dire l'Amérique toute seule. Message évidemment adressé aux investisseurs. Grégory Phillips nous attend en direct de Davos. L'UFAP-UNSA, principal syndicat de surveillants de prison, approuve donc finalement les propositions de la chancellerie. Le combat est loin d'être terminé pour que la sécurité et l'ordre redeviennent des valeurs fortes en prison, explique le syndicat dans un communiqué. Mais les mesures avancées hier par le ministère de la Justice sont visiblement suffisantes pour que le plus important des syndicats de l'administration pénitentiaire signe. Cela dit, les autres centrales ne changent pas de position. FO parle de trahison et la CGT de son côté continue à soutenir les surveillants qui se mobiliseraient. Bonsoir Anne Fauquemberg.
Bonsoir.
Que dit ce projet d'accord qui entrera en vigueur très rapidement, explique ce soir la chancellerie?
Eh bien, ce nouveau plan qui a été proposé hier par la garde des Sceaux est en fait une version améliorée d'une première mouture présentée la semaine dernière au syndicat. Un plan qui se présente sur trois niveaux pour ce qui a mis le feu aux poudres, à savoir la sécurité des surveillants après l'agression de l'un d'entre eux par un djihadiste il y a 15 jours dans le Pas-de-Calais. 1500 places spécifiques seront aménagées pour ces détenus condamnés pour terrorisme, et cela dans des quartiers spécifiques dits étanches. Ça veut dire que ces détenus n'auront aucun contact avec ceux de droit commun. C'est un gros progrès par rapport aux 140 ou 150 places proposées la semaine dernière. De plus, les agents vont bénéficier de plus de moyens de protection, des alarmes individuelles, des gilets pare-balles ou encore des menottes. Après, il y a la question de l'emploi. 1100 postes seront créés pendant le quinquennat pour un budget de 40 millions d'euros. 100 de ces emplois seront débloqués dès cette année. Et puis, il y a la question cruciale dans ce conflit, de la prime de sujétion spéciale. Cette prime attribuée aux fonctionnaires qui n'ont pas le droit de grève, eh bien, d'ici 2021, elle sera revalorisée pour être alignée sur celle des policiers. Même traitement, donc, c'est une revendication de longue date des syndicats de la pénitentiaire.
Alors, au 12e jour d'un conflit très dur au sein des prisons françaises, est-ce qu'on peut dire, Anne, qu'on s'oriente vers une sortie de crise?
Eh bien, l'accord a été signé par le principal syndicat, vous l'avez dit, l'UFAP-UNSA. Il peut donc entrer en œuvre dès maintenant. La ministre de la Justice a fait de nouveaux efforts, car elle considère qu'être surveillant de prison, c'est le poste le plus risqué du ministère de la Justice. Le mouvement a déjà faibli ce matin avec 62 établissements touchés contre 116 hier, selon la direction de l'administration pénitentiaire. Mais vous l'avez dit, deux autres syndicats représentatifs, FO et la CGT, rejettent cet accord. La contrôleuse générale des prisons, Adeline Hazan, est montée au créneau ce midi. Elle appelle à un retour à la normale. Adeline Hazan qui a reçu de nombreux appels de médecins qui disent ne plus pouvoir entrer dans certaines prisons pour soigner les détenus malades ou très âgés. Alors si FO et la CGT décident finalement de lever le mouvement, la crise sera certes réglée, mais pour combien de temps? Le cas de Vendin-le-Vieil bénéficie d'un effet de loupe, mais le problème de fond, c'est bien celui de la surpopulation carcérale, des taux d'occupation qui frôlent les 200% à Fresnes, par exemple dans le Val-de-Marne.
Merci beaucoup Anne Fauquemberg. Toujours très tendu, le procès de Jawad Ben Daoud continue devant la 16e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Bonsoir Florence Turm.
Bonsoir.
En direct du palais de justice, prévenu d'avoir logé dans son squat de Saint-Denis deux des terroristes des commandos du 13 novembre 2015, dont le cerveau présumé de ces attaques, Jawad Ben Daoud enchaîne, Florence, les provocations à la barre.
Oui, une nouvelle audience agitée, Jawad Ben Daoud restant incapable de garder son calme. Aujourd'hui, il a troqué sa veste rouge à l'effigie du PSG pour une jaune et noire avec l'écusson du Borussia Dortmund. On m'avait parlé d'un homme violent et je vois quelqu'un d'énergique, commence l'un des avocats de la partie civile, Georges Holo, d'un imbécile et je vois quelqu'un d'intelligent. Sur son banc, Jawad Ben Daoud opine de la tête jusqu'à la question « À quel moment vous êtes-vous rendu compte que vous avez hébergé des terroristes ?» Jawad Ben Daoud Bendaoud bondit. J'étais complètement défoncé. J'avais pris 4 grammes de cocaïne, fumé 4 ou 5 joints. Le ton monte. Vous essayez de me faire passer pour un menteur. Je vais venir à votre cabinet. On va s'expliquer. La présidente intervient. Monsieur Bendaoud, taisez-vous. L'audience est suspendue. Une demi-heure et Jawad Bendaoud reprend la parole. Madame le juge, je voulais m'excuser. Je suis enfermé depuis 14 mois sans sortir de ma cellule. Je ne peux pas parler avec des gens qui me lynchent à la télé. Madame, je me réserve le droit au silence. Finish, terminé. Il se rassoit, se bouche les oreilles, mais continue de vociférer. On a retrouvé votre ADN avec celui d'Abdelhamid Abaoud sur un rouleau de scotch, reprend l'avocat. Jawad Bendaoud explose à nouveau. Les gens, ils me prennent vraiment pour un abruti fini. Il agite les mains, les bras. J'aurais préféré être dans la case de celui qui dénonce les terroristes que celui qui a pris 50 euros. Il jure encore sur la tête de son fils. Faut vraiment avoir de la glace dans les veines pour héberger des gens qui ont tué 130 personnes. Depuis hier, en dépit de ses débordements et de ses provocation. Sa position n'a pas varié d'un pouce. Il ne savait pas qui logeait dans son squat.
Merci Florence Thurm en direct du Palais de Justice de Paris. Toujours en lien avec les attentats du 13 novembre à Paris et à Saint-Denis, la Belgique vient de remettre à la France Mohamed Bakali. Cet homme de 30 ans est soupçonné d'avoir été le logisticien des commandos. Il a d'ailleurs immédiatement été mis en examen à son arrivée en France pour association de malfaiteurs terroristes, complicité d'assassinat et tentative d'assassinat en bande organisée. Dans le dossier de l'attaque ratée du Thalys le 21 août 2015, Mohamed Bakali a également été mis en examen, notamment pour participation à une association de malfaiteurs terroristes. La psychiatrie ne doit plus être le parent pauvre de la médecine. Et Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, qui a fait ce diagnostic posé aujourd'hui, veut faire évoluer son modèle de financement. En clôture du congrès de l'Encéphale à Paris consacré à la psychiatrie, elle a annoncé des mesures d'urgence, pas forcément pour augmenter les moyens, mais au moins pour les préserver et pour mieux les affecter, sauf en ce qui concerne la pédopsychiatrie, qui elle sera financièrement mieux dotée à l'avenir, en tout cas d'après la ministre. Les explications de Camille Magnard.
C'est la première des 12 mesures présentées ce matin par Agnès Buzyn et c'était une demande forte des spécialistes du secteur. S'assurer que chaque faculté de médecine en France aura un professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Il faut former plus de pédopsychiatres, revaloriser cette discipline qui peine à attirer les aspirants médecins. Le nombre des spécialistes inscrits à l'ordre des médecins a été divisé par 2 en 10 ans. La profession est vieillissante et actuellement il n'y a donc pas de formateur en pédopsychiatrie dans une fac de médecine sur 5. Et pourtant, il faut former plus de pédopsychiatres car les besoins sont criants. Pour prendre rendez-vous, les patients et leurs parents doivent souvent attendre en ce moment de 6 mois à 1 an. La demande, il faut bien le dire, a explosé ces dernières années avec la montée des troubles psychiques liés pêle-mêle au décrochage scolaire, au harcèlement, à l'insécurité sociale ou familiale. Et pourtant, la pédopsychiatrie, c'est une priorité pour la psychiatrie publique. C'est souvent l'entrée dans un parcours de soins qui va durer. C'est l'indispensable détection le plus tôt possible des enfants et adolescents en situation de vulnérabilité. La discipline en conséquence est l'une des rares en psychiatrie à avoir vu son nombre de lits en hospitalisation augmenter ces dernières années. Mais ça ne suffit pas encore. Bien sûr, l'annonce d'Agnès Buzyn pour renforcer la formation de spécialistes ne va pas régler tous ces problèmes à court terme. Mais c'est l'une des rares parmi celles exposées ce matin par la ministre qui est unanimement bien accueillie par les professionnels.
La politique et Christophe Castaner qui rejette par avance toute pression que pourrait causer une éventuelle défaite de La République En Marche ce week-end lors de 2 scrutins partiels. Le délégué général du parti a refusé tout à l'heure dans une conférence de presse de faire des 2 élections législatives partielles qui arrivent, dont le premier tour aura lieu dimanche, un test national. Dans le territoire de Belfort et pour la première circonscription du Val-d'Oise, les électeurs sont effectivement de nouveau appelés aux urnes suite à des invalidations. Bonsoir Sophie Delpont.
Bonsoir.
Des invalidations au nombre de 5 au total. Les 3 autres élections auront lieu plus tard. Elles ont aussi un coût, ces invalidations et ces organisations de nouveaux scrutins, notamment un coût financier non négligeable.
Et oui, si on prend l'exemple de la première circonscription du Val-d'Oise, cette invalidation coûterait plus de 300 000 euros selon les calculs de l'UDI et jusqu'à 400 000 euros selon la France Insoumise. Parmi les éléments pris en compte pour ce calcul, il y a les remboursements des frais de campagne, un peu moins de 50% de la somme totale dépensée quand les candidats dépassent les 5% des voix, ce qui est le cas pour 5 candidats dans cette circonscription. À titre d'exemple, le candidat LR Antoine Savigna a dépensé 20 000 euros sur l'ensemble de sa campagne. Il a donc été remboursé de près de 10 000 euros. Pour le calcul, d'autres éléments pour tenir les près de 150 bureaux de vote de la circonscription. Sur 84 communes, il a fallu payer les fonctionnaires, préparer les affichages, les lieux de réception des citoyens pour le vote, ainsi que le traitement des résultats, notamment en préfecture, ce qui représente environ 6 heures de travail le soir de l'élection. Enfin, le coût du contentieux au Conseil constitutionnel, estimé à 18 000 euros selon l'UDI. Si on prend notamment les frais d'avocat, celui de la France Insoumise a été payé 2 000 euros grâce à un appel aux dons en ligne. Et l'audience au Conseil a duré 2h30, en comptant aussi l'expertise des 9 sages et de leurs équipes.
Alors ça, c'est le constat sur les conséquences de ces invalidations. Sophie, est-ce qu'on peut dire qu'au niveau des causes, certains ont pu jouer avec la démocratie alors, à Belfort ou dans le Val d'Oise?
Oui, alors dans le Val d'Oise, tout d'abord, Isabelle Muller-Coy, la députée LREM sortante, déclare avoir été au courant de l'inéligibilité de son suppléant après le premier tour. Le préfet aurait pu invalider son inscription au second tour. Il a d'ailleurs été alerté par un courrier recommandé que nous nous sommes procurés. Ce courrier-là a bien été reçu, validé par la préfecture. Le préfet a décidé de maintenir cette candidature à ce moment-là. La candidate, elle-même professeure de droit, savait que son élection serait invalidée après coup, mais a décidé de se maintenir pour laisser le choix aux citoyens, selon ses mots, car dans le cas contraire, son concurrent, Les Républicains, arrivé second au premier tour, aurait été élu immédiatement. Pour le territoire de Belfort, celui qui avait remporté l'élection de justesse, le candidat Les Républicains, Yann Boucard, avait lui fait éditer et distribuer de faux tracts aux couleurs du FN et de la France Insoumise, ce qui était bien sûr anticonstitutionnel.
Merci Sophie Delpont. À l'étranger, un Donald Trump beaucoup plus rond et un peu plus calme que d'habitude à Davos dans son intervention aujourd'hui devant les responsables de la grande finance et des politiques du monde entier. Le président des États-Unis a tenu un véritable discours urbi et orbi qui se voulait rassurant et apaisé à l'adresse notamment des investisseurs. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir.
Vous avez suivi pour nous à Davos le déplacement de Donald Trump qui s'est changé visiblement en VRP des États-Unis.
Oui, c'est un peu comme si Trump était venu ici à Davos pour vanter ou vendre l'Amérique et ses résultats. La moitié de son discours environ a été consacré à cela, avec d'ailleurs à peu près le même message que celui qu'il avait délivré hier soir aux grands patrons européens. Venez investir aux États-Unis. Depuis un an, notre économie est florissante. La bourse bat des records, c'est vrai d'ailleurs. Et Donald Trump s'en attribue le mérite avec, dit-il, la suppression de nombreuses régulations, sa réforme fiscale, une réforme de la bureaucratie. L'Amérique est aux yeux de Trump le pays où il faut faire des affaires en ce moment, avec en plus un chômage en baisse. La confiance des consommateurs. Alors on n'a pas eu le droit à USA are back comme France is back d'Emmanuel Macron, mais c'était un peu la même tonalité avec une explication de texte sur son slogan America first. Ça ne veut pas dire America alone, l'Amérique d'abord, mais pas l'Amérique isolée, pas seule. Bien sûr, en tant que président, je protégerai toujours d'abord les intérêts des Américains, mais Trump précise qu'il reste favorable au libre-échange à condition qu'il soit, je cite, juste et équitable.
Alors le déplacement que vous avez couvert pour nous de Donald Trump à Davos aura duré 2 jours. Grégory, dans quel climat est-ce qu'il s'est déroulé ?
Écoutez, la visite de Trump a provoqué ici beaucoup de curiosité. C'était seulement la deuxième fois qu'un président américain venait à Davos. La dernière fois, c'était Clinton en 2000. Donc, de la curiosité, un peu de déception après le discours de cet après-midi, qui était, c'est vrai, un peu plat. Mais globalement, on avait l'impression que Trump parlait le même langage que ceux qu'il a rencontrés ici. C'était le cas notamment hier soir lors de ce dîner avec les patrons européens. Là, on voit bien que le businessman Trump s'entend avec les dirigeants d'entreprise. Il y a eu aussi des rencontres politiques avec Theresa May. Il fallait afficher une bonne entente entre les deux pays, puis avec Benjamin Netanyahu à propos de Jérusalem. Enfin, sur la forme, Trump n'a pas été le bulldozer qu'on connaît parfois. Pas de tweet surprenant, pas de déclaration intempestive, si ce n'est une petite sortie tout à l'heure sur la presse, mais c'est tout. Globalement, c'est un bilan plutôt positif. Trump a quitté Davos à bord de son hélicoptère Marine One juste après son discours et il rentre ce soir à Washington.
Merci Grégory Phillips, en direct de Davos pour France Culture. En Syrie, au moins 10 000 civils ont été tués durant l'année 2017. 10 000 pour l'année 2017. C'est le triste bilan dressé comme chaque année en janvier par le réseau syrien pour les droits de l'homme, dont le rapport a été publié aujourd'hui. C'est sur des données recueillies par l'ONG que s'appuient notamment les Nations Unies pour, elles aussi, documenter les manquements au droit humanitaire international. Éric Biégala, bonsoir.
Bonsoir.
Du service diplomatique de France Culture. C'est précisément ce qui servira peut-être un jour à incriminer d'éventuels responsables de ces crimes de guerre.
Oui, le réseau syrien pour les droits de l'homme, c'est l'une des toutes premières ONG française syrienne née pendant la guerre, en l'occurrence en juin 2011. Depuis lors, elle documente très précisément tous les manquements des parties au conflit sous l'angle des droits fondamentaux, ce qui en l'occurrence signifie les manquements à ce qu'on appelle le droit humanitaire international ou le droit de la guerre. Cela comprend aussi bien les arrestations arbitraires que les morts suite à torture, les déplacements de population, le siège des villes, mais aussi l'utilisation d'armes telles que les bombes à sous-munitions, les bombes incendiaires, sans oublier bien sûr les armes chimiques. Et également tous les morts résultant de bombardements et de tirs indiscriminés ou visant délibérément bâtiments civils, lieux de culte ou hôpitaux. Et au total, l'année 2017 aura été tout de même sensiblement moins mortifère que l'année précédente en Syrie. 10 204 civils y ont été tués, exactement contre 16 913 en 2016, note le rapport du réseau. On aurait pu s'attendre d'ailleurs à beaucoup moins encore. 2017 avait en effet commencé avec une série d'accords de cessez-le-feu, des négociations pour mettre en œuvre des zones dites de désescalade, mais ces accords ont été régulièrement violés sur le terrain, essentiellement par le régime de Damas, à qui le réseau syrien pour les droits de l'homme impute d'ailleurs tout de même 40% des morts civiles dans le pays, avec 4148 personnes tuées durant l'année. Petite surprise, ce sont les forces de la coalition internationale qui tiennent la seconde place dans cette échelle des parties ayant causé le plus de morts dans le pays. 1759 civils sont morts l'an passé, essentiellement du fait des bombardements manifestement aveugles des avions de la coalition durant la bataille pour reprendre la ville de Raqqa à l'État islamique. La ville elle-même était encore largement peuplée de civils. Par comparaison, les bombardements russes ou les exactions de l'État islamique, en 2017 n'ont fait pour leur part que 1400 victimes civiles chacun durant toute l'année écoulée.
Éric Biégala, merci. L'enquête de cette édition à 18h16 sur France Culture. Enquête sur le logiciel censé gérer les soldes des militaires français. Louvois, c'est le nom de ce logiciel, a été amélioré depuis le fiasco total de sa mise en fonction. Bonsoir Philippe Reltien.
Bonsoir.
Ce logiciel a été amélioré, mais tous les bugs n'ont pas été résolus. Et vous, Philippe, vous avez cherché à comprendre comment Louvois a pu provoquer un tel désastre.
Oui, alors Louvois, c'est un logiciel qui a dysfonctionné dès sa mise en place en 2011. On assiste alors au premier bug. Plus de 70 000 militaires se retrouvent avec des payes amputées, voire des payes avec seulement 3 centimes d'euros. Et ça a de sérieuses conséquences sur leur vie, comme nous le raconte cet officier père de famille.
La mutuelle du militaire allait prélever sur le bulletin de solde. À partir du moment où ma solde n'était plus calculée, cette somme n'était plus prélevée. Donc la mutuelle m'a radié. Je ne l'ai jamais su. Sauf le jour où, une fois dans ma carrière, j'ai dû aller aux urgences à l'hôpital. Là, à l'hôpital, on m'a dit « Mais monsieur, vous n'avez plus de mutuelle ».
Devant le fiasco, l'armée fait appel à Steria, une société informatique pour réparer Louvois. Mais à vouloir régler un problème, on en crée un autre et on voit maintenant apparaître des trop payés. Résultat, nombreux sont ceux qui doivent ensuite s'endetter pour rembourser l'armée. Et c'est ce qui est arrivé à Nathalie.
Quand j'étais militaire, sincèrement, ça me faisait pas peur de partir au front. Mais je suis maintenant beaucoup moins bien dans ma tête avec Louvois. Quand vous avez 37 000 euros à payer ou quand vous vous dites « qu'est-ce qui va encore me tomber dessus ?» Et quand bien même vous allez les payer, ça va continuer, ça va. Puis même, j'ai pas envie de les payer là, je suis dans une situation où je ne pourrais pas.
Et des cas comme ça, il y en a beaucoup. On en comptera jusqu'à 120 000. 6 000 contentieux sont portés devant la commission de recours. 360 millions d'euros auraient été remboursés à l'armée à ce jour.
Alors Philippe, comment a-t-on pu fabriquer un tel monstre informatique?
Eh bien parce qu'on a sous-estimé la difficulté. Au début des années 2000, on veut harmoniser les payes des fonctionnaires. Sauf que l'armée, c'est un cas particulier qui défie les lois informatiques avec des missions qui changent tout le temps et un système de 174 primes et indemnités différentes. Bref, on a fait ce qu'on n'aurait jamais dû faire, estime Emilien Ercolani, un spécialiste en informatique.
Imaginez qu'il faille mettre tous ces gens qui dépendent de 250 critères de paye différents, avec des primes différentes, qui changent tous les mois, qui évoluent en permanence en fonction des terrains, des missions, etc. Imaginez qu'il faille mettre tout ça dans une énorme base de données et qu'à chaque fois que quelque chose change, entre guillemets, des engrenages doivent se mettre en place. C'est extrêmement compliqué à faire techniquement.
Résultat, en 2015, l'armée décide de créer un nouveau logiciel. Elle confie le marché à la société Sopra Steria. Sauf que survient un autre imprévu. Le prélèvement à la source n'avait pas été envisagé. Or, il va falloir l'inclure dans le nouveau logiciel. Et cela, selon une source anonyme qui a vécu l'affaire de l'intérieur et dont nous avons fait lire les propos, ça va encore retarder sa mise en place.
Si aujourd'hui on dit à Sopra, il faut rajouter au logiciel le prélèvement à la source, ça va leur prendre un joli délai supplémentaire et sans doute quelques dizaines de millions d'euros de plus. Mais à mon avis, c'est au minimum un an.
Pas avant septembre, corrige-t-on à Houlieu, et sans doute plus tard.
Et en attendant, près de 7 ans après sa première installation, donc, Louvois est toujours en fonction.
Eh oui, Louvois va aussi devoir envisager le prélèvement à la source. On a atténué les effets négatifs de ce logiciel, 5000 payes sont encore calculées à la main, mais ce qui frappe, c'est que personne n'assume l'échec, alors que le bilan est lourd. Plus de 300 millions d'euros gaspillés par l'armée et des soldats désabusés, fragilisés, dont certains ont raccroché l'uniforme.
Merci Philippe Reltien. Votre enquête est à retrouver en version longue sur notre site internet franceculture.fr. En région parisienne, le pic de la crue de la Seine sera atteint dans un peu plus de 24 heures. Il sera moins élevé que prévu, à 6 mètres et non pas à 6 mètres 20, comme craint initialement. Cela dit, avertit la mairie de Paris, la décrue sera lente et posera des problèmes de circulation durant toute la semaine prochaine. Temps sec et ensoleillé dans le sud, toujours gris dans le nord, de la neige sur les reliefs et parfois à basse altitude. Voilà l'essentiel du bulletin de Météo France pour la journée de demain. 5 départements sont toujours placés en vigilance orange, neige, l'Ardèche, la Drôme, la Loire, la Haute-Loire et la Lozère. Température minimale demain matin comprise entre 2 et 6 degrés. Pour les maximales, comptez entre 7 et 12 degrés d'est en ouest. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia.